France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Daniel Messager du service santé de la rédaction, nous recevons ce matin la responsable du pôle psychiatrie et addictologie des hôpitaux universitaires Henri Mondor à Créteil, par ailleurs directrice de la fondation Fondamentale. Elle publie avec le professeur Pierre-Michel Leboyer Psychiatrie, l'état d'urgence chez Fayard, qui sera en librairie le 12 septembre. Fayard, Institut Montaigne, fondation Fondamentale. Donc, Marion Leboyer, bonjour.
Bonjour.
On va parler de la crise de la psychiatrie ce matin avec des grèves et des manifestations dans plusieurs hôpitaux psychiatriques en France ces dernières semaines, ces derniers mois. Rouen, Le Havre, Amiens, hier Sainte-Anne à Paris. Grève et même grève de la faim à l'hôpital du Rouvray. Dites-nous pour commencer, qu'on ait des idées claires, comment en est-on arrivé là dans une crise qui est à la fois ouverte et aiguë ?
Effectivement, ces grèves sont comme une traînée de poudre qui témoigne d'un symptôme d'un système qui est à bout de force. Ces successions de grèves témoignent tous de l'épuisement des soignants, de leur incapacité à être entendus et surtout de leur frustration à ne plus être en mesure d'offrir des soins de qualité aux patients par manque de moyens.
C'est ça la conséquence. Alors, les patients sont moins bien soignés.
On dénonce dans le livre qu'on publie la semaine prochaine ces manques de moyens, ces réductions de moyens, mais surtout le fait qu'il y a urgence à ce que ce système de la psychiatrie française soit réformé en profondeur, qu'il soit réorganisé, qu'il soit repensé.
Pourquoi la psychiatrie est-elle dans cet état ici ?
Alors il y a énormément de raisons, il y a eu énormément de rapports qui ont été faits sur ce sujet, qu'on résume dans cet ouvrage, mais ces réformes qu'on demande, qui sont répétées, qui sont réexpliquées, ne sont pas mises en œuvre et il y a vraiment aujourd'hui urgence à ce que ces réformes soient proposées, décrites et mises en œuvre.
Daniel Messager.
Peut-être parce que cette maladie de la psychiatrie n'est pas considérée comme une maladie comme une autre. Est-ce que c'est ça que vous pensez ? Parce que, par exemple, le retard au diagnostic, je prends un exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans une autre maladie organique, une personne dans le dédale, vous décrivez le dédale des soins en psychiatrie, passe 5 à 10 ans, c'est très courant, avant d'avoir un diagnostic. On trouverait ça insupportable. Mais dans la maladie de la psychiatrie, c'est quasi normal.
Alors, Leboyer.
Effectivement, ce sont des pathologies qu'on ne considère pas assez aujourd'hui comme des maladies comme les autres. Et je voudrais rappeler à votre antenne et à votre micro le fait que les maladies psychiatriques, c'est vraiment une urgence et un sujet de santé publique. Aujourd'hui, il y a 12 millions de Français qui sont touchés par ces maladies. Un Français sur cinq, un de vos auditeurs sur cinq. Et on connaît tous autour de nous des personnes qui sont atteintes de dépression, de troubles bipolaires, de schizophrénie, d'autisme. Et c'est d'autant plus une urgence, et en particulier le dépistage qui est fait avec retard, ce dont vous venez de parler, que ces maladies commencent chez le jeune adulte. Elles commencent en majorité entre 15 et 25 ans. Or, ce système qu'on dénonce ne marche pas, et j'en veux pour preuve le fait qu'il y a un retard de diagnostic extrêmement important. Si on prend par exemple le trouble bipolaire, il y a 10 ans de retard entre les premiers symptômes, le diagnostic et la mise en route de traitement, alors même que ces traitements marchent. C'est un autre point qu'il faut qu'on souligne, c'est l'espoir et la possibilité de rétablissement ou de guérison. Et ça, c'est vraiment un phénomène qui n'est pas transmis suffisamment dans les médias et dans l'esprit du grand public, c'est que être diagnostiqué tôt, être soigné avec précision et efficacité, ça veut dire guérison et rétablissement.
Mais c'est parce que ces maladies semblent encore honteuses.
Alors il y a un phénomène en France encore de stigmatisation, de fausses représentations, de préjugés qui sont largement partagés par les citoyens, par les médias. Et donc il y a un effort extrêmement important, et je remercie France Inter de nous donner la parole ce matin, pour changer la vision de ces maladies, comprendre que ce sont des maladies comme les autres, que si on se soigne tôt, on peut aller mieux, que l'innovation et la recherche doit aussi être soutenue parce qu'elle est au rendez-vous et qu'elle doit être au rendez-vous et qu'elle n'est pas suffisamment soutenue en France.
Mais où voyez-vous la stigmatisation dans les médias, qu'on sache bien de quoi on parle?
Eh ben, je vous prends un exemple. La semaine dernière, vous avez tous relayé sur vos médias le fait qu'il y a eu un événement tout à fait tragique, qui est le meurtre d'un pompier à Villeneuve-Saint-Georges par une personne qui était porteur d'une maladie psychiatrique. On en a énormément parlé, pas seulement de cet événement tragique, mais du fait que c'était un malade mental. Or, il faut revenir sur les chiffres qui sont très clairs et très parlants. Et on sait aujourd'hui que dans les sociétés industrialisées, 0,16% pour 100 000 habitants d'homicide sont commis par des malades mentaux. Donc c'est extrêmement faible et ça contraste avec l'impact qu'on en fait dans les médias où on fait une espèce de loupe ou de verre grossissant de ces événements. Donc je crois qu'il faut mieux en parler, savoir plus expliquer. Expliquer les causes de ces maladies qui commencent à être connues et expliquer que ce sont des maladies comme les autres.
Daniel ?
Alors vous disiez qu'il faut repérer tôt, puisque par exemple chez le jeune adulte, les maladies surviennent entre 15 et 25 ans. Repérer tôt, ça veut dire aussi s'intéresser aux plus jeunes en pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie, c'est quand même une catastrophe totale. Il y a des départements, en Seine-Saint-Denis par exemple, où il n'y a quasiment plus de pédopsychiatres de ville. Il faut attendre dans les CMP, les centres médicaux psychologiques, qui sont des voies d'accès, qui semblent accès accessible quand même pour les familles qui n'osent pas trop aller à l'hôpital ou qui ne connaissent pas de psychiatre, parce que évidemment on ne connaît pas de psychiatre, on ne sait pas à qui s'adresser. Il faut un an de délai d'attente pour avoir un rendez-vous, puis un an pour avoir une consultation. Comment on peut faire pour améliorer ? Il faut revaloriser les tarifs des pédopsychiatres ? Il faut les obliger à s'installer dans des départements où il n'y a plus personne ? Qu'est-ce que vous préconisez, puisque vous faites un certain nombre de propositions ?
Alors, vous avez balayé beaucoup de sujets. La pédopsychiatrie, effectivement, est en grande difficulté en France. Il n'y a plus suffisamment de psychiatres, pédopsychiatres. Il y en a beaucoup qui partent à la retraite.
Et
donc, c'est évident qu'il faut les remplacer et qu'il faut soutenir la pédopsychiatrie. Mais vous parlez aussi des délais d'attente qui s'allongent sur les CMP. Les CMP sont donc des centres médico-psychologiques qui ont été créés dans les années 80 pour être une facilité, une porte d'entrée vers l'accès aux soins et qui aujourd'hui, faute de moyens, faute de renforcement de tout ce qui est la prise en charge ambulatoire dans les villes, ces centres sont totalement dépassés par la demande, avec des moyens qui, de nouveau, ne sont pas suffisants. Donc il faut repenser l'ensemble de l'organisation des soins pour diminuer ce qui est aujourd'hui une psychiatrie qui est très organisée autour de l'hôpital, qui est très hospitalo-centrée, avec encore, bien qu'il y ait beaucoup de lits, qui aient diminué beaucoup de lits. Et ces lits ont été fermés en France, mais pour autant, les moyens qui auraient dû être développés pour améliorer l'accès des soins, pour améliorer la prise en charge des patients en ville, n'ont pas été déployés. Or, il y a toute une série de solutions.
On va venir aux propositions nombreuses et détaillées que vous faites dans ce livre. Une question, d'ici là, Agnès Buzyn a reconnu la crise du secteur, le sous-investissement ancien en psychiatrie. Elle doit présenter un plan hôpital le 18 septembre prochain. Qu'en attendez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'une partie des questions que vous posez trouveront une réponse dans ce plan ?
Alors, on est très heureux que Agnès Buzyn, en janvier 2018, ait dit que la psychiatrie était le parent pauvre de la médecine et qu'elle ne devait plus être le parent pauvre. Et on a attendu avec beaucoup d'impatience et d'intérêt le plan qui est sorti, ou les premiers éléments du plan qui ont été décrits par la ministre en juin. Je voudrais juste insister sur le fait que si ce plan va dans le bon sens et que les propositions qui sont faites vont aussi dans le bon sens, on attend beaucoup plus. On attend un calendrier, on attend un comité de pilotage, on attend des précisions, on attend aussi un certain nombre de mesures qui ne sont pas évoquées dans ce document, en particulier la place des familles qui demandent à être entendues, qui demandent à être partie prenante des décisions médicales et du soin. On attend aussi que, vous parliez tout à l'heure des jeunes, que par exemple tout le dispositif de soins qui est extrêmement innovant en France, qui s'appelle les maisons des adolescents, fasse partie de l'organisation de l'offre du soin, soit homogénéisée et puisse travailler en lien avec les centres spécialisés comme les centres experts que nous avons créés à la Fondation Fondamentale. Et on attend aussi que la recherche qui n'est pas évoquée dans ce plan soit soutenue.
Il faudrait aller vers une structure comme l'INCa, dites-vous, Institut National du Cancer. Pour quelles raisons ce serait plus simple et plus pertinent ?
Alors tout à fait, c'est la première proposition du livre que nous sortons la semaine prochaine. La psychiatrie pour nous est exactement dans le même état qu'était la prise en charge du cancer au début des années 2000. Et l'État a fait un effort considérable et extrêmement efficace pour soutenir, réorganiser, repenser la prise en charge du cancer. Il y a 20 ans, la discipline cancer, les malades atteints de cancer étaient eux aussi stigmatisés. On ne prononçait pas ce mot-là. L'organisation des soins était très inégale, les traitements étaient décrits par les patients comme des loteries et la recherche n'était ni pilotée ni soutenue. Aujourd'hui, grâce à la création de cet institut qui a coordonné, qui a repensé les référentiels de santé, qui a soutenu la recherche, 2 malades de cancer guérissent sur 3. Nous demandons exactement la même chose aujourd'hui pour la psychiatrie.
Daniel Messager.
C'était Jacques Chirac à l'époque qui s'était engagé. Est-ce qu'il faudrait un engagement à ce niveau-là justement sur la psychiatrie ?
C'est exactement ce que nous demandons. La psychiatrie aujourd'hui est dans une situation d'urgence. Première cause mondiale de handicap, première cause de dépenses de santé, première cause d'invalidité. Il y a réellement une urgence et surtout, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de sources d'espoir, de solutions et de propositions. Il faut les mettre en œuvre.
Alors, parmi ces propositions, vous demandez aussi la création d'un portail, parce qu'on évoquait tout à l'heure le dédale. C'est vrai que les familles ne savent pas à qui s'adresser quand elles ont quelqu'un qui présente des symptômes. Les médecins généralistes sont souvent dépourvus. Ils ne savent pas parfois eux-mêmes à qui adresser la personne. Quel serait vraiment l'intérêt de ce portail? De s'y retrouver dans ce dédale?
Alors, effectivement, et les familles, et les patients, et les généralistes ne se retrouvent pas dans le dédale de où est-ce qu'on va trouver un spécialiste, où est-ce
déjà,
qu'on va
le
trouver
psy, un... on ne sait pas c'est quoi, un psychologue, un psychiatre, un psychanalyste, un psychothérapeute, qu'est-ce que ça veut dire, un psychomotricien, enfin, il y a tellement d'appellations qu'effectivement les familles sont perdues.
Les familles sont totalement perdues, le disent, le dénoncent et demandent plus de clarté dans le parcours de soins, dans l'organisation des soins, dans l'endroit où ils vont trouver le médecin et le spécialiste dont ils ont besoin. Et donc ce portail que nous demandons pourrait être piloté par cet Institut national de la psychiatrie dont nous réclamons la création, et ça pourrait être une de ses premières actions, que de faire une cartographie des acteurs de soins, que de donner des pistes pour comprendre si un adolescent qui rentre dans la maladie, il a une crise d'adolescence ou il est vraiment en train de démarrer une pathologie psychiatrique. Et ça pourrait donner aussi aux généralistes qui sont très démunis un certain nombre de pistes pour s'orienter et savoir comment adresser leurs patients.
On parle ce matin dans le 7-9 de la crise de la psychiatrie en France. Notre invité est Marion Leboyer qui, avec Pierre-Michel Liorca, publie Psychiatrie, l'état d'urgence, 12 millions de Français concernés, Fondation Fondamentale, Institut Montaigne, Fayard, en librairie le 12 septembre prochain. On va passer au standard d'Inter pour continuer ce dialogue. Julien, bonjour.
Bonjour Monsieur Demorand.
Bienvenue.
Bonjour à tous.
On vous écoute, Julien.
Moi, je travaille dans un hôpital psychiatrique parisien qui est en fusion avec d'autres hôpitaux et on dénonce le manque de moyens pour prendre soin des gens qui ont des pathologies mentales, tel type, n'importe quel type de pathologie. Donc, on voudrait bien que le plan de Madame Buzyn soit réellement efficace et concret, qu'il alloue des moyens humains supplémentaires.
Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, Julien, faute de moyens? Expliquez-nous, poussez les portes de l'hôpital pour nous, expliquez-nous comment ça se passe.
Le problème, c'est qu'on peut pas prendre le temps de répondre à la demande immédiate, parce que la plupart du temps, il n'y a pas assez de personnel dans les services. Vous avez entre 20 et 25 patients dans les services de psychiatrie qui sont ouverts ou fermés. Vous avez deux infirmiers et un aide-soignant. Les collègues n'ont pas le temps de parler de tous les problèmes de tous les patients. Ils peuvent pas prendre en charge. Il y a des patients qui peuvent pas sortir, qui peuvent pas avoir d'activité, qui n'ont pas le réel suivi qu'ils devraient.
Et du coup, qu'est-ce que vous faites faute de temps?
Faute de temps, les collègues, moi-même, on essaye de vaquer au manque de temps, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas, c'est pas la psychiatrie sur le papier, c'est pas la psychiatrie réelle de l'hôpital, en fait. Mmh. Alors après, il y a la psychiatrie en ville, le CMP, les suivis, mais ça, pareil, faute de moyens, pour avoir un rendez-vous aujourd'hui, c'est compliqué aussi. Il faut attendre entre 2, 3, 4 mois, suivant le quartier, la sectorisation, votre lieu d'habitation. Donc ça, c'est plus possible. Aujourd'hui, on a tellement de problèmes qu'il faut réellement mettre le paquet humain, mettre plus d'infirmiers, laisser les gens pouvoir travailler où ils veulent et arrêter surtout de leur mettre la pression également dans les services. Moi, je suis représentant du personnel, les gens sont prêts à travailler, mais en plus, on leur met la pression du chiffre et de l'activité et de tout ça.
Merci Julien pour votre intervention et votre témoignage, Daniel.
Oui, c'est extrêmement important ce que dit monsieur, parce que à cause du manque de personnel, au niveau des infirmiers, au niveau des aides-soignants, au niveau des psychiatres aussi dans les hôpitaux, il y a un hôpital de la région parisienne où en 20 ans, il y a eu une diminution. Il y avait 45 psychiatres, il y en a 24 aujourd'hui. Est-ce que les malades ont diminué de moitié pour autant? Non. Donc, les personnes ne peuvent plus, comme le disait ce monsieur, faire des sorties thérapeutiques, faire des ateliers thérapeutiques. Et ça, dans la prise en charge du malade, c'est quasiment aussi important que la prise de médicaments. Et les malades sont réduits à attendre de prendre leurs médicaments. Et ils ne font pas autre chose à côté.
Marion Leboyer.
Alors, ce témoignage est tout à fait ce que nous vivons, nous, dans les services hospitaliers, et c'est ce qui explique les grèves dont on parlait tout à l'heure, et les très grandes difficultés à prendre en charge avec les moyens modernes et avec les moyens efficaces qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on dénonce, c'est que c'est pas seulement une question de moyens, encore une fois, c'est une question de la réorganisation de l'ensemble du dispositif de soins. Aujourd'hui, il y a trop de patients qui sont hospitalisés. Je rappelle que dans nos services, il y a près de 25 à 30% des patients qui sont hospitalisés plus de 6 mois. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas déployé suffisamment de places en structure médico-sociale pour pouvoir les prendre en charge, qu'on n'a pas déployé toute une série de prises en charge ambulatoires qui ont démontré leur efficacité, comme des équipes mobiles qui peuvent aller vers les patients, ou bien des hospitalisations à domicile qui permettent aussi de désengorger les services, qu'on n'a pas non plus déployé une psychiatrie spécialisée. Aujourd'hui, on prenait l'exemple du cancer tout à l'heure, on ne va pas traiter toutes les formes de cancer de la même manière et avec les mêmes spécialistes. Il y a les mêmes besoins en psychiatrie, on a besoin d'une psychiatrie qui n'est plus seulement une psychiatrie généralisée, ce qui est fait sur les centres médico-psychologiques, mais qui est spécialisé par pathologie.
Je voudrais qu'on retourne au standard et qu'on donne la parole à Rosemarie. Soyez la bienvenue sur Inter.
Oui, merci. Bonjour.
Bonjour.
Oui, ma question était, j'entendais votre invité parler de la stigmatisation, et pour moi, la plus grande stigmatisation, c'est la séparation du monde psychiatrique, du monde de la médecine somatique. Ça fait des siècles qu'on les sépare, qu'on les éloigne, et plus ils seront séparés, à mon sens et à mon humble avis, plus la population générale continuera à stigmatiser les pathologies mentales. Et on le constate, on a des réflexions. Moi, je travaille à l'éducation nationale et la maladie mentale continue à me faire peur beaucoup de gens.
Merci Rosemarie pour cette question, car c'en est une. Marion Le Boyer.
Alors, c'est un point absolument crucial.
Expliquez-nous.
On sait aujourd'hui que les patients porteurs de pathologies psychiatriques, ils ont aussi des pathologies médicales associées, mais à cause de cette stigmatisation, à cause des clivages entre la médecine générale et la psychiatrie, ces pathologies ne sont pas prises en charge. Et c'est ce qui explique la perte d'espérance de vie des patients, qui est de 10 à 20 ans par rapport à la population générale. Je vous donne juste un exemple parce qu'il est important. Nous avons montré à la Fondation Fondamentale que les patients porteurs de pathologies qu'on appelle le trouble bipolaire, ils sont aussi porteurs de ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Qui sont des choses extrêmement simples, c'est la prise de poids, c'est l'hypertension artérielle, c'est le diabète, qui les mettent à risque de développer, de mourir de pathologies cardiovasculaires. Tout ça, c'est des choses qu'on peut prévenir, qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut soigner, mais il faut que l'articulation entre la médecine générale et la psychiatrie ne soit plus un clivage, et que ces patients soient pris en charge correctement dans un système articulé, organisé.
Daniel.
Alors, dans vos propositions, vous dites, effectivement, on est hospitalo-centré en France, il faut qu'il y ait davantage de malades pris en charge à l'extérieur, et par exemple, que soient remboursées les thérapies adaptées. Maintenant, depuis des années, on sait que les thérapies comme les TCC, les thérapies comportemento-cognitives...
Cognitivo-comportementales.
Voilà, dans l'autre sens, comportivo-comportementales.
Je pensais qu'on le disait dans l'autre sens encore,
mais enfin,
bref.
Dans l'autre sens, ces thérapies sont très efficaces, elles sont adaptées à chaque malade, mais quand on va en ville, elles ne sont pas remboursées. Il faudrait aussi aller dans ce sens-là.
Il faut totalement aller dans ce sens-là. Donc il y a certaines expériences pilotes de remboursement qui sont en cours dans certains départements. On espère que ça va déboucher sur un remboursement, parce que c'est vrai qu'un patient qui est pris en charge précocement, qui a le médicament qui convient et qui a la psychothérapie qui convient, qui peut être la psychoéducation, qui peut être des thérapies cognitives ou comportementales ou de la remédiation cognitive, il va bien. Et aujourd'hui, un des freins, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de psychologues qui sont formés à toutes ces stratégie thérapeutique et qu'en plus ils ne sont pas remboursés.
Retour au standard. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Merci. Je suis l'enfant d'une malade psychiatrique, d'une maman qui est tombée malade à ma naissance, hein, on va dire grosso modo. J'ai trois thèmes. J'ai mon enfance, ma propre enfance, le développement de ma compétence, c'est le deuxième thème, et enfin le vieillissement de ma maman et son maintien à domicile. Alors concernant mon enfance, c'est très simple, moi je trouve tout à fait scandaleux que je n'ai jamais été soutenu ou aidé en quoi que ce soit. Or, il y a eu autour de moi beaucoup de fracas, suicides, comportements bizarres, enfin je vous fais pas le tableau. Et rendez-vous avec la justice, ça c'est important pour les curatelles, etc. Je l'ai appris par hasard à 20 ans, avec le FAS. Donc ça c'est un scandale absolu. Hein. Que fait-on des enfants de malades psychiatriques isolés? La deuxième chose, c'est que j'ai développé une certaine compétence. J'ai 45 ans aujourd'hui, en plus d'avoir développé sans doute de nombreuses résistances et problèmes moi-même, en tout cas j'ai développé une compétence. Et troisièmement, cette compétence, j'ai voulu la mettre au service de ma maman qui vieillit. ma propre famille grandissant, ayant besoin d'une certaine stabilité dans ma famille, je souhaitais être rassuré sur le maintien à domicile de ma maman. J'ai mis ensemble, il y a 3 ans, curatelle, services sociaux et CMP, autour de la table. Je leur ai fait promettre d'avoir un petit quelque chose à domicile tous les jours, comme on le fait pour le moindre Alzheimer ou le moindre personne handicapée. Eh bien, je me suis cassé les dents. Mmh. Et aujourd'hui, ma famille a éclaté. Je dois me payer mes propres psys et essayer de rebâtir ma vie. Mais je constate que j'ai pas été aidé en quoi que ce soit. Et ma maman en vieillit aujourd'hui. J'ai à dos toute la famille qui veut la mettre en maison de retraite, alors que moi, je suis à peu près sûr qu'elle aurait juste besoin d'un petit peu d'assistance au domicile, mais 3 fois rien.
Merci Bertrand pour ce témoignage. On sent la solitude, on sent la colère. Beaucoup de questions, Charlotte, sur l'application d'Inter. On a besoin de soutien, famille, d'accompagnants, de malades, psy à l'aide. Que pouvez-vous dire des possibilités d'aide aux familles confrontées aux troubles psychiatriques? Bertrand, plus donc ces 2 autres auditeurs, Marion Le Boyer, que répondre?
Alors c'est un témoignage extrêmement important et vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons écrit ce livre à plusieurs et en particulier avec les associations de patients qui unanimement ont le même témoignage que cet auditeur pour demander que on crée des consultations familles pour les familles pour qu'elles soient mieux informées du diagnostic des stratégies thérapeutiques et qu'elles fassent partie du dispositif de soins puisqu'elles sont aux prises avec les patients au quotidien. Le deuxième point qu'il soulignait, c'est les compétences des malades ou des ex-malades, et donc là aussi on appelle de nos voeux la création de ce qu'on appelle le métier de père aidant, qui sont des...
P-A-I-R.
Voilà, exactement, qui sont des malades ou des ex-malades, qui sont formés à cette père aidance et qui sont extrêmement utiles auprès des patients pour pouvoir témoigner de la possibilité de rétablissement, de l'importance du suivi du traitement, et qui peuvent eux-mêmes raconter leur histoire. Donc ça, c'est aussi une innovation qu'on réclame et qui doit être déployée. Et puis le troisième point qu'il a évoqué, c'est l'importance de l'aide pour la prise en charge à domicile. Et là aussi, pour désengorger les hôpitaux, il faut arriver à développer des moyens qui ne sont pas forcément très onéreux, mais qui ne sont pas suffisamment développés, comme l'hospitalisation à domicile, par exemple.
Florian est en ligne.
Oui, bonjour, merci de prendre mon témoignage.
Je vous en prie.
Je travaille dans un service de protection de l'enfance, dans un département plutôt rural, et je voulais témoigner qu'on a besoin, nous aussi, de la psychiatrie, parce qu'on est confronté à des souffrances d'enfants dans le cadre de nos accompagnements éducatifs. Et moi, dans mon département, on a parfois, pour avoir un bilan ou un premier rendez-vous avec un infirmier ou un psychiatre, plus d'1 an d'attente pour des enfants, donc avec des troubles qui se développent et des difficultés à accompagner ses enfants et ses familles. Voilà, c'était un témoignage pour dire que la psychiatrie diffuse aussi sur le reste de la société et qu'on a besoin de psychiatres et de médecins.
Merci Florian, j'ajoute cette question de Marc. Comment la psychiatrie peut-elle mieux travailler en lien avec la protection de l'enfance, nous demande Marc sur l'application d'Inter, car bien souvent les deux dispositifs, faute de moyens, s'opposent. Marion Le Boyer sur ces 2 témoignages.
Mais je pense que c'est de nouveau des témoignages extrêmement éclairants et extrêmement importants qui montrent à la fois l'importance de donner des moyens au dépistage et au diagnostic précoce, et deuxièmement de repenser et d'obliger, de contraindre l'articulation des soignants entre eux, alors qu'aujourd'hui il y a trop de clivages entre la psychiatrie et le reste de la médecine.
Une question rapide, même si elle est immense sur le plan philosophique et politique. Virginie vous demande si les patients qui relèvent de la psychiatrie sont traités comme citoyens ordinaires en termes d'accès aux droits et aux libertés.
Alors la réponse est oui, il y a énormément de protection pour qu'il le soit, et je pense qu'il faut changer le regard de la société sur les maladies mentales et sur les maladies psychiatriques, faire que ça soit des pathologies comme les autres.
Merci beaucoup Marion Le Boyer d'être venue au micro d'Inter ce matin et d'avoir dialogué.
Merci
avec les auditeurs. Vous copubliez avec Pierre-Michel Liorca, Psychiatrie, l'état d'urgence, 12 millions de Français concernés. C'est publié chez Fayard avec l'Institut Montaigne et la Fondation Fondamentale.